Au micro, Idrissa Seydoudia. Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au Sénégal, des milliers de fidèles ont convergé hier sur la ville sainte de Touba, dans le centre du pays, dans le cadre des célébrations annuelles de la confrérie des Mourides. Malgré d'énormes embouteillages et la pandémie de Covid-19, les pèlerins se sont dirigés en masse vers la somptueuse grande mosquée de Touba, ville qu'ils considèrent comme sainte. Le pèlerinage du Grand Magal commémore l'anniversaire de l'envoi en exil par les autorités coloniales françaises du fondateur de la confrérie des Mourides, cher Ahmadou Bamba, appelé Serigne Touba. Au Nigeria, des hommes armés qui avaient enlevé dans le nord-ouest du pays plus de 100 élèves dans une école chrétienne en ont libéré 10 d'entre eux. C'est ce qu'a annoncé hier le représentant des parents d'élèves. Une rançon a été payée, comme dans le cas des élèves libérés auparavant, a-t-il dit, sans dévoiler le montant de ces rançons. Depuis le rapt de 121 élèves, le 5 juillet, au pensionnat du lycée baptiste Bethel Secondary School, à la périphérie de la ville de Kaduna, 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. 11 autres élèves demeurent en captivité et nous espérons qu'ils seront tous libérés la prochaine fois que nous parviendrons à un accord avec les bandits, a déclaré le représentant des parents d'élèves. Théoneste Bagosora, considéré comme le cerveau du génocide de 1994, est l'un des plus hauts responsables rwandais condamnés pour cette tragédie et décédé à l'âge de 80 ans au Mali où il purgeait sa peine. Ce décès annoncé samedi après-midi par un bref message posté sur Facebook par le fils de M. Bagosora a été confirmé hier à l'AFP par le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui a pris le relais du tribunal pénal international pour le Rwanda après 2015. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du Conseil souverain qui dirige la transition au Soudan, a promis hier de réformer l'institution militaire et nier toute implication de l'armée dans le putsch manqué du 22 septembre. Il a qualifié de pure calomnie les accusations contre elle, assurant l'attachement de l'armée à une transition réussie. Elle quittera ensuite la scène politique et son rôle se limitera à protéger le pays, a promis le général Burhan. Après la tentative de coup d'État, au moins 11 officiers ainsi que des civils ont été arrêtés et le premier ministre civil, Abdallah Hamdok, a appelé à une réforme de l'armée, sujet hautement sensible au Soudan. Soudan toujours, les exportations de pétrole en provenance du Soudan du Sud vont pouvoir reprendre via le port soudanais de Bachayer après un accord avec les manifestants qui le bloquaient, a annoncé Khartoum hier soir. Les protestataires dénonçaient un accord de paix avec des rebelles qui, selon eux, ne leur assurent pas une représentativité suffisante au sein des instances locales. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé négatif au Covid-19 ce dimanche, alors que 3 cas avaient été enregistrés dans sa délégation au retour de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a annoncé le gouvernement. Un 4e cas a ensuite été signalé. Non vacciné contre le Covid-19, M. Bolsonaro a été vu à plusieurs reprises sans masque pendant son séjour new-yorkais. Parlant de New York, Broadway est de retour. Après 18 mois de silence imposé par la pandémie, les théâtres new-yorkais rallument leurs scènes et se sont offerts hier soir leur plus beau spectacle avec leur récompense annuelle, les Tony Awards, et un triomphe pour la comédie musicale Moulin Rouge. Chacun ici est vacciné et chacun porte un masque. Chaque théâtre de Broadway va ressembler à ça pour un petit moment et tout ira bien, a lancé d'entrée l'acteur et chanteur américain Leslie Odom Jr., hôte d'une soirée haute en couleurs et en chansons dans le Splendid Winter Garden Theatre de Broadway. la suite de nos informations. Au cours du week-end, le Mali a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies. Le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a fait le point sur la situation dans le pays. Précision de notre correspondante à New York, Dili Diko.
Lors de son allocution samedi, Choguel Kokala Maïga a évoqué les problèmes auxquels fait face le Mali et parlé de la situation politique du pays.
C'est dans ce contexte difficile que le peuple malien, après plusieurs mois de soulèvement populaire, a choisi une autre direction, un autre pays, et placé tous ses espoirs dans le processus de transition politique en cours, dont il est l'artisan principal.
Il s'est ensuite focalisé sur les défis sécuritaires qui perdurent malgré la surmilitarisation du Mali.
De mars 2012 à ce 25 septembre 2021, où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation dans mon pays ne s'est guère améliorée, malgré le soutien international et la présence sur notre sol d'une opération de paix de l'ONU, la MINUSMA, et des forces internationales telles que l'opération française Barkhane, la force européenne Takuba et la force conjointe du G5 Sahel. La situation continue progressivement de se détériorer au point que des pans entiers du territoire national échappent au contrôle du gouvernement.
Monsieur Kokala Maïga a également tenu à clarifier la position du Mali par rapport aux partenaires sécuritaires en soulignant qu'il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA et anti-français au Mali. Ce matin, le programme sera très chargé pour la dernière journée de cette 76e session de l'Assemblée générale. Il y aura les discours de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Mauritanie, mais aussi du Cameroun, du Congo et de la Guinée. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Les élections présidentielles et législatives prévues au Mali le 27 février pourraient être reportées de quelques semaines ou mois, a affirmé hier à l'AFP le premier ministre Choguel Kokala Maïga, soulignant l'importance de leur crédibilité, Michel Joseph.
Monsieur Maïga a déclaré que les élections pourraient être repoussées de 2 semaines à quelques mois et qu'il y aura un agenda plus détaillé à l'issue des assises nationales d'ici fin octobre. Il a souligné que l'essentiel est au moins de tenir des élections qui ne seront pas contestées. Le calendrier électoral a été fixé à partir des exigences de la CEDEAO sans tenir compte des étapes à franchir pour y parvenir, a dit Monsieur Maïga. Interrogé sur les critiques portées à l'ONU concernant la lenteur de l'application de l'accord de paix de 2015, il a promis que l'État malien continuera à le respecter. Mais la situation a empiré, a-t-il noté, soulignant que les 2/3 du pays sont envahis par les terroristes. Après une diatribe samedi aux Nations Unies contre la France, qui, a-t-il dit, a abandonné le Mali en plein vol en décidant de retirer ses troupes de l'opération Barkhane, le Premier ministre a démenti tout discours de rupture. Paris a pris sa décision au motif que le gouvernement dialoguait avec les terroristes, s'est-il insurgé. Lorsque des zones sont abandonnées, qu'est-ce qu'il nous reste ? Chercher des alternatives, a fait valoir M. Maïga en évoquant implicitement des négociations avec des sociétés paramilitaires russes, comme confirmé samedi par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
En Allemagne, le Parti social-démocrate a remporté les élections législatives, marquant la fin de l'ère Merkel avec 25,7% des suffrages, devançant d'une courte tête les conservateurs selon un décompte officiel provisoire annoncé lundi par la Commission électorale fédérale. Le camp conservateur de la CSU recueille 24,1% des voix, le pire résultat de son histoire, tandis que les Verts arrivent en troisième position avec 14,8%, suivi par le parti libéral FDP avec 11,5%. Nathalie Barge fait le point.
De nombreux citoyens ont voté SPD car ils veulent un changement de gouvernement et que le prochain chancelier s'appelle Olaf Scholz, a lancé hier soir le candidat social-démocrate. Mais malgré leur score décevant, Les conservateurs entendent bien former eux aussi le prochain exécutif, a prévenu Armin Laschet, qui s'est exprimé aux côtés de Madame Merkel. Jamais le parti n'était tombé sous le seuil des 30%. Dans ce scrutin marqué par l'émiettement des suffrages, chacun des deux camps a besoin de trouver deux autres formations pour former une coalition majoritaire à la Chambre des députés. Une première depuis les années 50. Olaf Scholz, vice-chancelier et ministre des Finances du gouvernement sortant, semble avoir les meilleures chances de succéder à Angela Merkel, selon un sondage de la chaîne ZDF. Mais les Verts se réservent la possibilité de s'allier tant avec le SPD qu'avec la droite. L'option d'une coalition purement de gauche semble désormais écartée, la gauche radicale Die Linke ayant enregistré un score trop faible. La compétition qui se profile risque de plonger la première économie européenne dans une longue période de paralysie politique et de tractations entre partis.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
L'Égypte pourrait devenir le cinquième importateur mondial de maïs d'ici 2030, d'après le dernier rapport publié par l'OCDE FAO sur les perspectives agricoles 2021-2030. L'Égypte devrait s'afficher comme le cinquième plus gros acheteur mondial de la céréale à cette échéance. Le pays des pharaons dépassera ainsi la Corée du Sud pour figurer sur la liste des importateurs majeurs, comprenant déjà l'Union européenne, le Japon, le Mexique et le Vietnam. L'Institut international pour l'environnement et le développement, basé à Londres, a fait part vendredi des frustrations des mineurs artisanaux du cobalt qui ne sont pas suffisamment représentés dans les initiatives internationales liées à la chaîne d'approvisionnement. Les principaux gisements de cobalt dans le monde se trouvent en République démocratique du Congo et les préoccupations locales n'ont jusqu'à présent pas été suffisamment prises en compte dans la conception de ces initiatives, déplore le rapport. Les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles se sont élevées à 5 900 milliards de dollars en 2020 dans le monde, soit environ 6,8% du PIB, a indiqué vendredi le FMI, appelant à une tarification efficace pour réduire les émissions polluantes. Ces subventions devraient atteindre 7,4% du produit intérieur brut mondial en 2025, selon le Fonds monétaire international, qui a publié vendredi un rapport à l'occasion du dialogue de haut niveau consacré à l'énergie dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Afro-basketball féminin, pour commencer, le Nigeria champion d'Afrique à Yaoundé au Cameroun.
Oui, championne d'Afrique en 2017 et en 2019, les Tigresses font la passe du 3 en s'imposant non sans peine en finale 70-59 devant des Maliennes peu inspirées. Décevantes lors des Jeux Olympiques de Tokyo où elles ont perdu leurs 3 rencontres, les joueuses d'Otis Ugly Junior, jamais inquiétées durant la compétition, assoient un peu plus leur domination sur le basket africain. Le Cameroun complète le podium après sa victoire 59-49 en match de classement devant le Sénégal.
Futsal à présent et le Maroc n'ira pas loin que les quarts de finale du mondial en Lituanie.
Oui, puisque battu par le Brésil 1-0, une réalisation de Ricardo sur un coup franc à la 11e minute de jeu. Les champions d'Afrique ont poussé en seconde période sans pour autant recoller au score devant une solide équipe brésilienne 5 fois championne du monde en 3 participations au mondial de futsal. C'est la première fois que le Maroc atteint les quarts de finale. En deuxième heure, l'Argentine est venue à bout de la Russie au tir au but 5-4. Le score était de 1-0 après le temps réglementaire. Les deux derniers quarts de finale se jouent aujourd'hui. On aura Espagne, Portugal et Iran, Kazakhstan.
Sur le gazon, on jouait en Afrique les qualifications pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Costa Rica 2022.
Tout à fait, avec les matchs allés du deuxième tour à Porto-Novo au stade Charles de Gaulle. Les écureuils du Bénin ont coupé les Chines devant les Lions du Maroc, score 2-1. Un résultat qui leur complique la qualification, mais le sélectionneur garde espoir. Ouzerou Abdoulaye.
On les a sentis quand même quelque peu tétanisés par l'enjeu, donc elles n'ont pas pu se lâcher sur la première partie. On peut le comprendre quand même, hein, avec ces jeunes filles qui n'ont pas l'habitude de la compétition. qu'elles se retrouvent à ce niveau avec en plus tous les lauriers qu'on leur a jetés après la double confrontation contre le Niger. Forcément, elles avaient envie de bien faire. Et souvent, quand on a envie de bien faire, on peut quelquefois avoir peur. C'est bien dommage, mais je pense que il y a de l'espoir. Parce que les Marocaines ont beaucoup plus d'expérience. Elles jouent ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Nous, on a formé l'équipe il y a quoi? 2 mois. Donc, déjà arriver à tenir tête face aux Marocaines, ça veut dire qu'il y a de l'espoir.
La suite des résultats des matchs allés de ce second tour
et la grande performance réalisée par les Nigérianes presque qualifiées après leur large victoire de 7-0 en Centrafrique. L'Ouganda aussi s'impose en déplacement 7-2 au Kenya. Autre victoire à l'extérieur, celle du Cameroun 4-0 en RDC. Même score en faveur de l'Éthiopie au Rwanda. Le Burkina Faso et la Sierra Leone disposent respectivement 1-0 de la Gambie et de la Guinée. Sinon, pour le reste, la Zambie a su à domicile 6-0 devant le Malawi. L'Angola s'offre le Botswana score 4-1 et le Burundi 3-0 face à la Namibie. Les matchs retour auront lieu dans 2 semaines.
Merci Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, fin des travaux de la table ronde sur l'organe unique de gestion des élections et les termes des références des futures assises nationales de la réformation. L'organe de gestion des élections s'appellera Autorité indépendante de gestion des élections et sera composé de 9 membres choisis sur appel à candidature pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko.
La question a été tranchée. Les futures élections seront organisées par l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est ce qu'a décidé les partis politiques, groupes armés signataires et la société civile qui ont pris part aux 3 jours de table ronde consacrée à la question. Cette autorité sera composée de 9 membres choisis sur appel à candidature pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Comme son nom l'indique, ce sera la seule autorité lors des élections. Bakary Traoré, journaliste et participant.
Les attributions des différents acteurs qui organisent d'habitude les élections au Mali, que les attributions de ces acteurs de l'organisation des élections au Mali soient attribuées à l'organe indépendant de gestion des élections. Il s'agit donc du ministère de l'administration territoriale, de la CENI, mais aussi la DGE, la Direction générale aux élections, et le comité égal accès aux médias d'État.
Pendant ces 3 jours, il était aussi question de plancher sur les termes de référence des prochaines assises nationales de la refondation. L'accent a été mis sur son caractère inclusif et participatif.
Les termes de référence ont mis l'accent sur donc les participants qui doivent venir à ces futures assises nationales. Et en dehors du pays, au niveau international, si vous voulez, au niveau extérieur, donc il y aura des démembrements. Et avec une participation des Maliens de l'extérieur.
Il faut noter que plusieurs partis politiques réunis au sein du cadre d'échange pour une transition réussie, composée en grande partie par l'ancienne majorité, n'ont pas pris part à cette table ronde, la jugeant inopportune. Hamidou Doumbia, porte-parole du parti ILEMA.
Le ministre Dawa Diawara a déjà fait plus d'un rapport sur des questions de refondation. Ils ont fait un travail fabuleux. Qui prend en compte tout ce qui est réforme institutionnelle. Ce document existe. Nous avons fait les concertations nationales 10, 11, 12 qui a aussi donné des recommandations. Et nous avons fait la conférence d'entente nationale. Donc tout ceci, il y a des recommandations qui existent. Il suffit juste de les mettre en œuvre ou à défaut, faire juste un petit atelier de synthèse de ces recommandations et prendre ce qui est essentiel et les mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, aller gaspiller 2,5 milliards du pays sur des assises dont les recommandations ne vont pas aller au-delà de ce qu'on a eu à dire, c'est vraiment pas très, 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 très pertinent pour nous.
Les participants ont convenu qu'il fallait réviser la constitution du 25 février 1992 avant la fin de la transition. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Au Burkina Faso, le parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a renouvelé ce week-end son bureau exécutif lors d'un congrès extraordinaire. Alassane Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, est le nouveau président du parti. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ils étaient durant 3 jours 3500 délégués venus des 45 provinces du pays pour prendre part à ce congrès débuté samedi et qui a connu son épilogue hier dimanche. Le principal acte de ce congrès extraordinaire, l'élection d'un nouveau président du parti en la personne de Alassane Bala Sakandé, l'actuel président de l'Assemblée nationale.
Cette recomposition n'est ni l'expression de l'ascension politique d'un individu ou un groupe d'individus, ni le signe d'une quelconque déchéance.
Le nouveau président du parti au pouvoir, Alassane Bala Sakandé.
Elle est plutôt la manifestation du dynamisme, de la vitalité de la démocratie interne qui caractérise le MPP. Dans notre parti, où les idées ne viennent pas uniquement d'en haut, mais directement de celles de ceux qui en sont membres, chacun aura sa place et son mot à dire dans notre projet commun de faire du MPP une famille politique plurielle, fraternelle et confiante en son avenir. Pour cela, je prends l'engagement, ici et maintenant, d'être à l'écoute de tous, du militant de base au cadre du parti.
Au sein du parti, on dit avoir mis en avant la promotion de la jeunesse. Siliane Zongo, militante du MPP.
En tant que militante et ensuite en tant que jeune, je suis très contente qu'on passe enfin le flambeau à la jeunesse. Et M. Simon, c'est vrai qu'il est bon, il y a longtemps on le connaît, mais on voulait quand même que ça passe du côté des jeunes. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui qu'on ait pensé enfin à nous. Surtout qu'on se bat pour qu'il y ait quand même un quota jeune à l'Assemblée. C'est vraiment une joie pour nous de voir Bala Sakandé nommé. D'abord c'est l'emploi, je pense que le reste là viendra après. Mais l'emploi, franchement, on en a besoin. Et c'est ce dont souffre la jeunesse aujourd'hui, le manque d'emploi.
C'est un dinosaure politique qui fait la place à la jeunesse.
L'avenir n'appartient à personne. Il appartient à Dieu. Et moi, je voudrais lui rendre grâce.
Simon Compaoré, le désormais président sortant du parti au pouvoir.
Au moment où je me retire, notre pays fait face avec détermination et résilience à une guerre qui lui a été imposée par les forces du mal. Je prie Dieu afin que les anges de l'Éternel campe autour de nos forces combattantes, autour du Burkina Faso, et leur assure une victoire définitive sur cette agression venue du fond des âges. Au revoir.
Le MPP a renouvelé le bureau exécutif national fort de 95 membres et le bureau politique national qui compte 1381 membres. Le parti s'est dit prêt à aller aux futures échéances électorales, la plus proche, les élections municipales en 2022 et la présidentielle et les législatives de 2025. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, les membres du Conseil national de la transition sont connus depuis le week-end. Le chef de la junte militaire, le général Mahamad Idriss Déby, a désigné par décret les 93 membres de cette structure qui jouera le rôle de la future Assemblée nationale. Alors que certaines corporations ne sont pas prises en compte, les femmes, quant à elles, sont représentées à 33%. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Avec 33% de représentativité féminine, nous notons un pourcentage le plus élevé observé depuis 1960 au Tchad.
Amina Priscille Longo, ministre de la Femme, elle qualifie ce quota accordé aux femmes au Conseil national de transition de progression historique.
Nous venons donc de franchir le cap de 30% institué par l'ordonnance 012, pourcentage jamais atteint, ni au gouvernement, ni dans les grandes institutions, moins encore dans le Parlement. C'est une prouesse.
Plusieurs composantes dont des regroupements de partis politiques ainsi que les corporations de journalistes ne sont pas prises en compte dans la mise en place de cette structure qui jouera le rôle de la future Assemblée nationale.
Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui ne veulent pas de débats contradictoires.
Sali Bougarba, membre de la CPDC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, il dénonce le caractère exclusif du CNT.
On ne coopte que les gens qui sont d'accord pour accompagner ou adhérer aux thèses du CMT. Et donc, de mon point de vue, on peut dire adieu à l'espoir d'une transition inclusive et consensuelle. Et je crains qu'on dise également adieu à une transition apaisée. Adieu également à la résolution 996 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Les journalistes, eux aussi, revendiquent leur place dans le Conseil national de transition. Abbas Mahamoud Tahir est le président de l'Union des journalistes tchadiens.
Les journalistes ne sont pas seulement là pour faire la couverture médiatique, mais ils ont aussi leur point de vue sur la gestion de la chose publique. Donc, les organisations professionnelles des médias prennent acte de cette exclusion des acteurs de médias et en tireront toutes les conséquences qui s'imposent.
Le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits humains et de l'environnement, Abba Daoud Nandjede, joue à l'apaisement.
Nous voudrons avancer. Et s'il faut composer avec toutes les plateformes, les regroupements, ça risque encore de retarder les choses. Et on peut accepter en avançant, en oubliant les autres, mais pas les communicateurs. Mais si aujourd'hui, dans un regroupement de 93 personnes, et on n'a pas pensé impliquer les communicateurs, moi je pense que ça c'est un manquement grave. C'est pas possible.
Pour la porte-parole adjointe du comité ad hoc, Marie Yondamne, au-delà de l'aspect politique, la sélection a été faite de façon scientifique.
Avec l'expérience que nous avions vécue, nous avons bien voulu rencontrer les représentants des plateformes. Et c'est à eux de repartir à leur base pour donner l'information. Le cas de l'UJT, certainement les autorités verront dans quel cadre l'UJT va continuer à faire son travail pour relayer l'information. Parce que l'UJT est un autre pouvoir à part entière auquel Tchadien ne peut dénier sa force.
La coalition Waki Tama trouve inadmissible que le Parlement provisoire, qui devrait être une émanation de la volonté populaire pour mieux contrôler les actions gouvernementales, ne puisse être désigné par le pouvoir exécutif. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En Allemagne, Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005, va devoir passer la main après le scrutin qui consacrera l'avènement d'une nouvelle ère dans la première économie d'Europe. Quel fut le rapport à l'Afrique de la première femme chancelière en Allemagne? Jean-Roger Bion a joint à Bruxelles un expert des pays de l'Union européenne, Henri-Désiré Nzizou.
En 2015, Angela Merkel, évidemment, se dit qu'il faut peut-être aussi s'intéresser à ce continent qui est riche en matières premières. Donc le potentiel est bien là. Il fallait donc pouvoir trouver une stratégie globale d'approche pour pouvoir s'y investir. Par ailleurs, il faut remarquer qu'en 2015, toujours pendant la crise des migrants, il y a effectivement de la part d'Angela Merkel, disons, une volonté de pouvoir remettre l'Allemagne à l'agenda africain pour lui permettre de prendre sa part dans le développement du continent. Et il faudra effectivement attendre 2017 avec l'idée de Compact with Africa pour avoir une sorte de sommet Afrique-Allemagne.
Est-ce qu'il y aurait, M. Nzouzi, une différence d'approche de Mme Merkel par rapport aux autres partenaires que sont la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis?
Ce qui fait force des Allemands, c'est l'approche bilatérale, évidemment, et l'organisation des activités en filière, parce que ce sont les Allemands qui investissent en co-entreprise. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont développé le pays au lendemain de la Seconde Guerre et se sont implantés dans le reste de l'Europe. Donc, ils dupliquent, en fait, le modèle sur le continent africain et l'institutionnel n'a pas autant de poids que le secteur privé qui, lui, effectivement, dispose des moyens pour pouvoir s'investir. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2018, les investissements allemands ont dépassé les 10 milliards d'euros, soit près de 10% par an, et ça semble payer, parce qu'en fait, l'Allemagne, à ce petit jeu-là, a réussi à détrôner la France comme premier fournisseur européen du continent africain.
En Allemagne, le départ d'Angela Merkel du pouvoir marque un tournant pour le pays. Quelle direction désormais sera la première femme chancelière dans le pays?
Les entreprises allemandes, en fait, ont toujours eu pour stratégie de contacter directement les partenaires qui les intéressent et chercher éventuellement des joint ventures avec les entreprises qui sont déjà positionnées. Et donc, en étant présent sur ce créneau-là, avec ou sans Angela Merkel, il y a de fortes chances, en fait, pour que le modèle puisse se perpétuer. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses encore à régler parce qu'il y a la sécurité juridique liée aux investissements, mais n'empêche, l'Afrique reste au cœur de la résolution des grands défis mondiaux. Donc, forcément, il y aura de la part de l'Allemagne, je dirais, une prise de responsabilité qui se traduira par un accroissement des investissements. Alors, il faudra évidemment que les Africains soient un peu patients parce que certains se plaignent de la frilosité des entreprises, mais ils ne peuvent pas être partout en même temps. Donc, à ce petit jeu-là, je pense qu'il faut envisager effectivement des projets davantage en co-entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permettent à ces entreprises de pouvoir s'implanter durablement sur le continent africain.
Henri-Désiré Nzizou, analyste politique spécialiste des pays de la zone Europe. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.